Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Premier Cap à Cap 2024, et bien sûr, au nom de mon ami Jean-Luc Palévaudy, en mon nom et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la meilleure des années possibles pour 2024, en espérant qu'elle sera meilleure, on dit toujours ça, hein, toujours meilleure, que l'année qui vient de s'écouler. Et nous ouvrons l'antenne avec un jeune homme, mais déjà nanti d'une solide expérience professionnelle. Il est ostéopathe et il va nous faire découvrir son métier. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bonjour Thomas Ordonneau.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, c'est un grand plaisir. Vous allez nous expliquer ce que c'est que l'ostéopathie. C'est toujours pour moi un peu mystérieux, bien que j'ai pratiqué, alors non pas en tant que professionnel, mais on peut le dire, hein, on ne va pas cacher les choses, sous vos mains expertes, ce qui m'a donné envie d'en savoir plus et de faire profiter de cette expérience nos auditeurs. Comment ça vous est venu d'être ostéopathe ? C'est une vocation
Alors, pas du tout. Profil un peu particulier, puisque issu d'un père médecin.
Toujours délicat.
Un peu délicat de parler d'ostéopathie au départ. Donc, j'étais pas parti pour faire de l'ostéopathie. Je m'orientais plutôt vers des études de médecine, que j'ai ratées, première année de médecine ratée. Et par la suite, je m'orientais plutôt sur des études de psychologie. Donc, pas du tout porté sur l'ostéopathie à la base, et puis souffrant de diverses douleurs, je me suis fait réorienter un jour vers un ostéopathe. Et là, gros choc, puisque je n'avais plus de douleurs. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose
qui marche
à creuser.
La médecine classique ne marchant pas, il y a peut-être autre chose.
Voilà, on dit souvent médecine non conventionnelle. Faut faire attention aux termes aujourd'hui qu'on utilise.
Oui, parce qu'il y a un conseil de l'ordre très protecteur.
Ah, il faut faire attention aux mots.
On protège le précaré, en principe.
Exactement. Mais on parle toujours de soins, hein, puisque les patients viennent avec des motifs de consultation particulier, et le but du jeu, c'est de les soulager. Donc, je me suis lancé comme ça, je me suis inscrit un peu au hasard, et ça a un peu changé ma vie. Donc,
on s'inscrit où quand on veut être ostéopathe ?
Alors, vous avez plusieurs écoles, à Toulouse, il y en a deux. Moi, je me suis inscrit à l'ITEO, l'Institut Toulousain d'Ostéopathie. C'est des études qui durent 5 ans, c'était 6 ans avant, c'est passé à 5 ans, c'est devenu réglementaire, il y a un diplôme d'ostéopathie nationale.
Et j'imagine que c'est payant ?
C'est payant et c'est très cher, donc il faut aussi avoir les moyens de pouvoir se payer ses études. Vous avez des prêts étudiants qui permettent aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à ces études-là, c'est ce que j'ai fait, mais effectivement, c'est pas donné.
Quand on dit pas donné, on peut peut-être justement donner quelque chose, à savoir une enveloppe à peu près indicative.
Alors, à l'époque de mémoire, alors je m'en souviens très bien puisque j'ai fini de payer mon prêt étudiant il y a quelques mois. C'était il y a une dizaine d'années, c'était autour des 6000 euros l'année.
L'année. Donc il faut en faire 5, 6
à l'époque. Il faut en faire 5. Avant, c'était 6. Désormais, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est autour des 9000 euros par an.
Ah oui, quand même. Donc 5 fois 9, oui, c'est chaud quand même. Hein,
il faut travailler derrière. Il faut travailler tout le temps.
Oui.
Mais on y arrive.
On y arrive. Alors, c'est un diplôme qui est délivré donc par cet institut toulousain. Il y a un deuxième institut, il y en a d'autres en France, j'imagine.
Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une législation qui est passée il y a quelques années. Je ne serai pas le meilleur pour vous expliquer tout ce qui est législatif, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé, notamment des écoles avec des durées de parcours de 3 ans. Voilà, on était formés en 3 ans. Ça a été assez réglementé, il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc aujourd'hui on est sur des choses qui sont plus carrées, et vous avez des ostéopathes DO, voilà, pour les auditeurs, si vous allez chez des ostéopathes, essayez d'aller chez des ostéopathes DO.
Ce qui veut dire diplômé.
Diplômé d'ostéopathie. Oui, vous serez face en principe à des personnes qui ont mangé de l'ostéopathie pendant 5 ans, 24 heures sur 24, et qui n'ont pas été formées une fois tous les 6 mois.
Voilà, à la va-vite ou par correspondance.
Exactement.
Bien, alors... Vous avez donc eu ce diplôme au bout de 6 ans, donc, puisque vous avez fait partie des études longues.
J'ai fait partie des 5 ans, moi.
Des 5 ans. Voilà. Bah, au bout de 5 ans, vous deviez avoir envie un peu de mettre la main à la pâte ou sur le client. Comment ça s'est passé? Vous partez en stage, vous ouvrez un cabinet, vous partez chez un confrère?
Alors, vous êtes déjà, dès la première année, face à des patients. Première année d'ostéopathie, il y a une clinique associée à l'école. Et vous êtes déjà face au patient. Alors, au début, on ne manipule pas, mais on observe, on pose ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est les premières questions qu'on pose au patient sur le motif de consultation. Et puis, petit à petit, voilà, vous mettez les mains dès la première année.
On ne va pas dire dans le cambouis, puisque c'est le
corps humain. Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent sur les pratiques. Faut mettre les mains. Voilà, le praticien qui va tous les jours à la clinique et qui met les mains, ben forcément, comme un peintre ou un artisan, plus il travaille et plus il va acquérir, selon moi, de l'expérience. Donc, on est face au patient dès la première année. Suite aux études, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous êtes sur des activités libérales, vous avez le droit de vous installer où vous voulez. Et puis vous avez aussi le choix de faire des remplacements, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas votre cabinet tout de suite et pour pratiquer, pour acquérir de l'expérience, vous allez chez différents confrères, vous les remplacez et vous avez toutes sortes d'activités puisque vous pouvez travailler aussi bien sur des nourrissons que sur des personnes âgées, donc c'est assez varié sur les motifs de consultation.
Pardon, on va y venir. Dans les promotions où vous étiez nombreux?
Dans ma promotion, on était entre... Ouais, je pense qu'on était une centaine d'élèves.
Ah oui, quand même.
Une centaine d'élèves. Tous n'ont pas fini ostéopathe.
Donc oui, ça a écrémé, ça a dégraissé au fil des années.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit pas des promos qui soient encore plus
encore
importantes.
Plus importantes.
Ouais, ouais.
Et alors, garçon ou fille, enfin, ça
tout confondu.
Tout confondu.
Tout confondu.
Il n'y a pas de spécificité. Il y a d'ailleurs à peu près aucun métier aujourd'hui qui soit genré, comme l'on dirait.
C'est non genré et vous avez toutes sortes de profils. Donc, vous avez des profils d'étudiants qui ont échoué comme moi en médecine. Mais vous avez aussi la personne qui se réoriente, qui a 40-45 ans, qui ne se plaît pas dans son travail et qui décide de repartir dans des études. Vous avez des profils littéraires, pas besoin de sortir d'un bac S pour aller en études d'ostéopathie, ni d'avoir fait une brillante carrière scientifique. C'est ouvert à tout le monde.
Et les enseignants?
Les enseignants, je vais parler que de ma propre expérience. J'ai été face à des grands noms de l'ostéopathie, j'ai eu cette chance-là. Des gens qui ont amené beaucoup dans le métier, donc beaucoup d'expérience. C'est aussi grâce à eux que je travaille comme je travaille aujourd'hui. Donc,
le contenu des cours, c'est de la théorie, c'est de la pratique. Alors, ça fonctionne comment?
Vous avez...
Parce que pendant 5 ans, c'est long, 5 ans.
C'est très long.
Qu'est-ce qu'on apprend pendant 5 ans?
C'est très très long, c'est très très dense. Et vous avez tout dit, vous avez de la théorie. La première année, je la compare un petit peu à la première année de médecine. Sur ce qu'on apprend, en revanche, vous n'êtes pas obligé de finir à... 18 de moyenne, vous n'êtes pas autant dans la compétitivité, mais vous êtes à peu près sur le même cursus. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'on apprend en deuxième année de médecine puisque j'y suis pas allé, mais sur la première année, c'est assez comparable. Donc vous avez beaucoup de théories, vous avez de l'anatomie bien sûr, de la physiologie, de la neurologie, vous apprenez à comprendre comment fonctionne le corps. Derrière ça, vous avez aussi de la pratique. Voilà, c'est ce que je disais, dès la première année, le premier cours de pratique, il est là dès la première semaine. avec des repérages, l'anatomie palpatoire. Donc, vous êtes en sous-vêtements dans une promotion divisée en plusieurs parties et vous vous retrouvez à 30-40 personnes en sous-vêtements. Donc, c'est bien aussi parce qu'on se met aussi à la place du patient et on apprend à découvrir le corps.
Donc, vous les découvrez entre vous.
On le découvre et on manipule beaucoup, beaucoup, beaucoup entre nous.
Donc, ça vous rapproche sur les...
Ça nous rapproche et puis on apprend, hein. Il y a toute une technique. Hein. Donc, on fait aussi des choses qui ne doivent pas avoir lieu, peut-être mal aussi au début. Donc, on ressort un peu des études, en tout cas pour ma part, un peu cabossées sur le plan corporel. Mais
parce que, oui, vous en avez subi des séquelles de ces études.
Il y a des moments rigolos quand on apprend à palper et à faire de l'anatomie un petit peu viscérale. Les premiers doigts de fer qui viennent dans votre abdomen, vous les sentez sur plusieurs jours et puis voilà, vous êtes un petit peu dérangé parfois sur le plan digestif. Donc,
sont quand même des techniques un peu intrusives. On va y venir, hein, sans
rentrer
en détail.
Oui, bien sûr, vous avez plein de sortes de techniques différentes. C'est aussi pour ça que d'être à la place du patient, ça nous permet aussi de ne pas reproduire des gestes qui peuvent être douloureux ou difficiles pour les patients.
Et ensuite, les enseignants, ce sont des gens qui se consacrent uniquement à l'enseignement, ce sont des professionnels, un mix des deux.
Alors, vous avez des ostéopathes, vous avez des anciens kinés qui sont devenus ostéopathes, mais vous avez aussi des professeurs d'anatomie, vous avez tout professeur de santé confondu, il y a des gens qui travaillent au CHU, vous avez, moi j'ai eu des neurologues, des cardiologues, voilà,
Oui, donc c'est quand même assez ouvert sur le milieu médical. Oui, il n'y a pas de l'ostracisme de la part du milieu médical.
Non, c'est pas très sectaire, toute forme de profession est bien accueillie, il n'y a pas que des ostéos et on ne reste pas qu'entre ostéos, non, loin de là.
Il y a des spécialités dans l'ostéopathie où lorsqu'on est ostéopathe, c'est terminé, on peut se livrer à toutes sortes de soins ou alors il y a des cas particuliers qui nécessitent, par exemple, je sais pas, la pédiatrie, les enfants.
Alors, de base, l'ostéopathie, c'est de travailler sur la globalité. Donc, pour ma part en tout cas, il y a pas de spécificité dans le métier, il n'y a pas de spécialité. En revanche, vous allez avoir des praticiens qui vont peut-être être, comme vous le parliez, de pédiatrie, moins à l'aise avec des bébés. Donc, ils vont plutôt réorienter vers des praticiens ou des confrères qui, eux, ont plus l'habitude de travailler en pédiatrie. Mais il n'y a pas de fermeture. Voilà. Donc, on travaille aussi bien sur des enfants que, comme je disais, sur des personnes âgées.
Donc, au sortir de l'école, vous êtes allé vous faire la main, ou les mains plutôt
Ouais, c'est un peu ça. Non, à la sortie de l'école, j'ouvre tout de suite mon cabinet, en plein centre de Toulouse. Alors là aussi, il y avait peut-être des meilleurs choix, puisque vous avez deux écoles à Toulouse, et donc beaucoup, beaucoup de praticiens qui s'installent dès la première année.
Il faut une ville pour s'installer, ou si vous allez en campagne, vous allez mourir de faim?
Alors non, je dirais plutôt l'inverse. Si vous allez en campagne dans les déserts médicaux, vous n'aurez peut-être pas besoin d'attendre quelques années avant de pouvoir travailler que dans votre cabinet. Voilà. Donc moi, je me suis installé à Toulouse, mais je travaillais aussi sur trois autres cabinets, notamment un qui travaillait avec les bébés. Donc, dès la sortie, j'étais avec des bébés entre les mains qui m'ont beaucoup apporté. Et puis, j'ai travaillé sur deux autres cabinets le temps que mon cabinet se lance petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, je travaille uniquement que dans mon cabinet associé avec trois confrères qui sont psychologues. Voilà, le pluridisciplinaire, à mon avis, c'est important. Aussi.
Cela veut dire, alors on peut dire d'ailleurs où se trouve votre cabinet, hein, puisque vous êtes en plein Toulouse, vous êtes rue Pharaon.
Voilà, je suis à côté de la place des Carmes, en plein centre de Toulouse.
Alors, on fait une première pause musicale, peut-être, hein, avant de venir, il va falloir quand même que vous nous expliquiez ce que c'est que cette ostéopathie et comment ça marche. Mais avant ça, vous avez choisi un morceau
de Johnny Hallyday.
Pourquoi c'est pas trop votre génération, Johnny Hallyday, pourtant?
Eh bien, j'ai écouté ça toute mon enfance.
Parce que les parents l'écoutaient ou
parce que les parents l'écoutaient et puis un jour, ça me rappelle toujours des vacances en fait. À chaque fois qu'on part en vacances avec des amis,
C'est la Madeleine de Proust.
Exactement.
C'est Johnny Hallyday.
C'est Johnny Hallyday, c'est la voix de Johnny. Voilà, j'ai pensé à ça tout de suite.
C'est transgénérationnel alors.
Exactement, et puis quelle voix.
Revient la nuit de Johnny Hallyday, le choix de mon invité Thomas Ordonneau, notre ostéopathe du jour. Alors, bon, on a compris comment on pouvait être ostéopathe. Maintenant, ostéopathie, ça consiste en quoi? Quelle est la philosophie de ce métier? Parce qu'il y a différents métiers. Il y a des chiropracteurs, il y a des kinés, il y a des masseurs, c'est souvent la même chose. Comment on distingue tout ça et qu'est-ce qui fait les caractéristiques de l'ostéopathie?
Alors, il y a Pour vous reprendre sur les différentes pratiques et métiers, l'ostéopathie, selon moi, toujours avec des mots simples, consiste à travailler sur la globalité et à essayer de permettre au corps du patient de retrouver un certain équilibre.
Ça veut dire pratiquement... Travailler sur la globalité, ça veut dire qu'il y a... Alors, je vais employer des termes qui vont vous faire sursauter, mais ça veut dire qu'il y a un point chaud, c'est-à-dire là, ce qui a amené le patient à vous consulter. Vous n'avez pas forcément vous focaliser là-dessus, mais peut-être sur l'origine que vous avez déterminée du problème.
Vous avez tout compris.
On l'avait un peu expliqué aussi, quand même.
Le motif de consultation, on va dire, basique, la lombalgie. Voilà, il y a une étude, il n'y a pas longtemps, qui est sortie sur les ostéopathes et la lombalgie, où on ne s'est pas très bien fait voir. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je ne vais peut-être pas travailler uniquement que sur les lombaires. Voilà. La lombaire étant une courbure hyper adaptative, et bien je vais essayer de comprendre pourquoi mon patient a mal dans le bas du dos.
C'est un peu la démarche de médecine asiatique, où quand vous allez voir... ces hommes qui vous plantent des aiguilles ou autres, qui vous disent « Ok, oui, vous avez ça, mais voyons au-delà et voyons plus globalement. »
J'ai pas assez d'expérience pour vous dire « On se rapproche de la médecine asiatique. » En revanche, vous avez des patients qui viennent et qui vous disent « Ah, mais mon médecin chinois m'a dit la même chose. »
Donc ça veut dire qu'il y a quand même une philosophie de départ un peu commune et assez différente de la philosophie du médecin classique.
Ah, vous n'êtes pas sur le même métier, donc effectivement, c'est comme comparer un boulanger avec un plombier, de même que le kiné ne fait pas le même travail qu'un ostéopathe. C'est pluridisciplinaire, c'est très important à mon avis de travailler.
On ne fait pas le même travail ou alors on n'a pas la même philosophie, on n'aborde pas les choses de la même façon, parce que le travail, c'est toujours sur le corps humain.
Bien sûr, pas la même philosophie. Mais les chemins se recoupent. Voilà. Le but étant de permettre le soin au patient et d'avoir un motif.
Mais qu'est-ce qui va me faire choisir, moi, patient, j'ai une douleur quelque part, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mon médecin classique m'a prescrit des tonnes de médicaments. Ça fait pas plaisir à la sécurité sociale, à lui peut-être et aux pharmaciens. Mais donc je veux attaquer autre chose et je veux peut-être pas avoir dans mon corps beaucoup de chimie. Est-ce que c'est là que je vais voir un ostéopathe?
C'est une des raisons. Vous pouvez aussi avoir le bouche à oreille en vous disant ah mais tiens j'ai entendu tel médecin chinois, tel acupuncteur qui fait ça, qui fait ci. Vous allez peut-être être attiré par ça. La personne qui a une peur bleue des aiguilles va peut-être pas aller chez le médecin acupuncteur.
Alors quelle est la différence avec par exemple l'autre métier, le chiropracteur, celui qui vous fait craquer parce que lui il vous manipule, il vous met dans tous les sens, il vous plie, on entend que ça craque. Est-ce que ça poursuit les mêmes finalités?
Il y a beaucoup d'appréhension sur ce que vous dites, le crack. Le chiropracteur, alors je ne suis pas chiropracteur, donc je ne pourrais pas parler à sa place. Je ne suis pas sûr que tous les chiropracteurs fassent craquer dans tous les sens non plus. De manière générale, je pense que le chiropracteur fonctionne beaucoup sur l'anamnèse. Effectivement, il va peut-être avoir un travail plus important sur l'axe.
Rappelons l'anamnèse.
C'est les questions que nous posons en début de séance. Bonjour monsieur, vous venez me voir pourquoi? J'ai mal au dos, vous avez mal au dos depuis combien de temps, etc. etc. On se renseigne, c'est la fiche de renseignement avant d'attaquer.
Voilà, on remonte à la source.
Exactement, on essaie de comprendre pourquoi.
Pourquoi êtes-vous là?
Voilà, j'essaye de nous comparer à des détectives. Voilà, on a une consulte qui dure à peu près une heure. Pendant une heure, c'est d'essayer de comprendre et d'être le détective et de comprendre pourquoi mon patient...
Alors une heure, c'est quand même très long par rapport au médecin qui va vous garder 10 minutes, un quart d'heure.
C'est tout le luxe que j'ai. Voilà, c'est le temps.
Voilà. C'est un luxe que vous partagez avec le patient.
Bien sûr, bien sûr. C'est une chance pour moi de pouvoir passer autant de temps avec mes patients.
Est-ce que tous les ostéos passent autant de temps et est-ce que la notion de rentabilité est affectée ou est-ce qu'il faut effectivement passer autant de temps pour arriver à un résultat?
Ça va aussi dépendre de votre praticien. Vous avez des praticiens qui gardent peut-être le patient 15-20 minutes. Peut-être aussi que le praticien est beaucoup plus efficace que moi. Et que je suis jeune ostéopathe et que je prends encore beaucoup de temps.
Ça fait un peu de temps que vous travaillez quand même. Hein,
je me considère vraiment comme un ostéopathe jeune.
On est toujours un éternel apprenti.
Exactement,
c'est vrai.
Exactement. Je considère que je commence à toucher l'ostéopathie du petit bout des doigts. Mais voilà, comme le boulanger, je fais souvent l'image du boulanger qui apprend
pétrit.
À pétrir, qui apprend à manier un petit peu le pétrin. Je commence à manier un peu le pétrin. Voilà, maintenant, il va falloir que j'enfourne et que je gère les cuissons. Mais non, c'est une découverte tous les jours. Moi, j'apprends des choses tous les jours.
Vous apprenez de vos patients?
Bien sûr.
Il y a un échange réciproque, donc.
Exactement, je m'ennuie jamais.
Mais apparemment, vos patients, pour en connaître quelques-uns, sortent soulagés, heureux et reviennent. Donc, c'est que vous avez une vraie efficacité.
C'est le but.
Alors comment ça se passe? Quel rapport vous avez pour soigner une douleur? Vous pliez les gens, vous les triturez, vous les... qu'est-ce qui se passe? Comment vous agissez?
Vous seriez venu, c'est ce que je vous ai dit, la pratique elle évolue beaucoup. Vous seriez venu il y a 6 ans de ça, peut-être que effectivement j'aurais eu une pratique très protocolaire, peut-être beaucoup axé sur l'axe avec ce que vous entendez, sur les techniques articulaires, croc, qui en fait ne touchent pas le système articulaire, mais qui touchent le système musculo-squelettique. Aujourd'hui, avec du recul, j'utilise moins de techniques articulaires, même si elles sont parfois nécessaires. Et puis, je m'adapte beaucoup, surtout aux patients. Vous avez une personne de 96 ans, je vais peut-être pas utiliser des techniques articulaires. Vous avez un bébé, je vais peut-être pas utiliser des techniques articulaires non plus. Donc, on s'adapte et puis on découvre beaucoup de choses Donc aujourd'hui, on est peut-être plus sur des techniques fonctionnelles, on va dire des techniques plus douces pour être plus compréhensibles, avec des techniques qui partent du crâne, avec des techniques qui sont plutôt myofasciales, membranaires, musculaires. Donc on s'adapte et puis on évolue surtout.
Alors ces techniques, moi je parle un peu en tant que client et d'expérience, parce que la première fois que je suis venu chez vous, on ne peut pas cacher que je suis un de vos clients et un client heureux, la première fois que je suis venu chez vous, j'ai dit mais il ne fait rien. Parce que je n'avais absolument pas l'impression, je voulais m'endormir d'ailleurs, et c'était, pour parler de douceur, là effectivement il y avait plus que de la douceur, je n'avais absolument pas l'impression qu'il y avait une quelconque action sur mon corps. Et pourtant, à la fin j'ai quand même ressenti une certaine fatigue, hein, et donc c'était passé quelque chose d'efficace, puisque je suis reparti en n'ayant plus les douleurs pour lesquelles j'étais venu vous consulter. Donc comment vous avez fait? C'est de la magie?
Alors il y a, malheureusement je suis désolé, il n'y a rien de magique.
Je
suis encore désolé parce que j'estime que je ne fais pas grand chose. C'est le patient, c'est vous qui avez tout fait. Pour vous parler de vous, vous ne m'avez pas emmené sur des techniques articulaires. Donc effectivement, on est resté sur une séance qui ça vous a paru très doux, mais effectivement, il y a des choses qui ont bougé puisque vous êtes retrouvé fatigué après séance et puis votre motif de consultation, il a évolué. Donc je vous ai suivi, je n'ai été qu'un point d'appui pour vous permettre de retrouver ce que je vous ai dit en début d'interview, un certain équilibre.
Alors vous agissez sur quoi? Parce que le kiné, on le voit, on le sent, il vous manipule, donc vous sentez ses doigts des fois un peu violemment. Le chiro, on l'a dit, on a l'impression que bon, il n'arrête pas de vous manipuler dans tous les sens, de vous plier dans tous les sens. Il vous fait prendre des postures parfois surprenantes. Et vous, on est allongé sur une table, on sent vos mains sur le corps, mais c'est pas intrusif du tout. Donc comment vous arrivez à modifier les composantes d'un corps? Encore une fois, je ne dois pas du tout employer les bons mots. Comment vous arriviez à modifier les composantes d'un corps pour le ramener là où il aurait dû être, de là où il n'aurait pas dû sortir plutôt?
Alors, vous allez avoir différentes pratiques. Vous allez avoir des praticiens qui vont être effectivement portés beaucoup sur l'axe très mécanique. Ce qui est tout aussi utile et appréciable pour certains patients.
Donc la mécanique, ça veut dire qu'on touche, on agit vraiment sur le corps.
Vous êtes sur de la technicité, sur des dysfonctions qu'on appelle musculo-squelettiques, où l'axe doit être travaillé. Je travaille aussi comme ça.
Alors quand vous parlez d'axe, c'est de quoi?
L'axe, c'est le rachis, la colonne.
D'accord.
La colonne cervicale, dorsale, lombaire, bassin.
On se qui tient la machine, quoi.
Qui tient la machine, voilà, les articulations, si vous voulez. Vous parlez de kiné, de chiropracteur, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes attentes ni sur les mêmes métiers. Le kiné, pour moi, alors je vais peut-être mieux vous en parler que le chiro, puisque je travaille aussi avec des kinés, mais le kiné, il va travailler sur de la rééducation. Vous vous cassez un tibia, vous vous fracturez le tibia parce que vous avez pris un coup de sabot ou autre. En premier lieu, je suis pas sûr, et encore que l'ostéopathe va vous aider à retrouver des appuis, une marche normale. Il va pouvoir aider. Il va pouvoir aider sur la congestion, sur l'inflammation. Il va pouvoir vous apporter une récupération peut-être aussi un peu plus importante et plus rapide. Mais là, je vais plutôt réorienter mon patient vers le kiné, qui là va faire un vrai travail de rééduque, de vraie proprioception, un vrai travail de réapprendre à marcher, vous voyez. C'est complètement différent. Pour revenir sur les techniques douces qu'on a employées avec vous, c'est très personnel, c'est beaucoup dans le toucher et dans le test. Je teste beaucoup, voilà, je fais que tester.
Alors, qu'est-ce que vous appelez tester, justement?
Tester, c'est comme si je scannais. Voilà, je pars du bout des pieds. Et puis, en entendant votre motif de consultation, je regarde le long de votre corps ce qui peut moins bien bouger.
Quand vous dites « je regarde », c'est vos doigts qui regardent. Ce sont vos doigts
c'est
qui
regardent. C'est de l'écoute. C'est de l'écoute qu'avec les mains.
Donc, ça veut dire que vous percevez Vous devez quand même avoir beaucoup de finesse dans les mains et puis la pratique et votre formation, mais qui vous permettent avec le bout de vos doigts de savoir, sans rentrer dans mon corps, hein, on n'est pas chez le proctologue, pour savoir ce qui dysfonctionne.
C'est exactement ça. Et puis on s'aperçoit aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce travail de scan, il est important puisque vous allez venir avec un motif de consultation particulier. Je reprends le motif de lombalgie. Et puis, je vais me rendre compte qu'en fait, les lombaires, elles souffrent, mais elles ne souffrent pas à cause des lombaires. Elles souffrent peut-être à cause d'une cheville qui ne fonctionne pas bien et donc de muscles qui partent de la cheville, du genou jusqu'au bassin, qui vont créer un déséquilibre. Et donc, moi, au lieu de venir travailler sur vos lombaires, je vais plutôt venir travailler sur votre cheville.
Ça veut dire que votre scan, c'est une espèce de radio, finalement, où vous allez arriver à regarder ce qui se passe dans mon corps et à déterminer l'origine du problème.
Vous avez tout compris, c'est ça. Trouver l'origine. Alors, je n'ai pas de rayon X ni dans les mains, ni au bout des doigts, ni dans les yeux, mais
ça... Ça paraît quand même un peu mystérieux. Vous allez chez... Vous savez, il y a des gens qui enlèvent le feu, il y a des gens qui les rebouteux, comme on disait autrefois. Bon, là, il y a une espèce de magie, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, et pourtant ça fonctionne parce qu'on on l'a vu fonctionner. Mais vous, c'est différent, c'est beaucoup plus technique. Le rebouteux, il n'a pas besoin de passer 5 ans et de payer 50 000 euros quelque part pour fonctionner.
C'est sûr.
Alors que vous, vous possédez véritablement un savoir.
Le savoir, il est présent puisqu'on a eu 5 ans d'études. Ce sont tous ces outils-là qui nous permettent justement... derrière ça, de peut-être s'amuser un petit peu plus, mais tout en gardant quelque chose de carré et qui, justement, peut s'expliquer non pas par la magie.
Comment vous arrivez à sentir du bout de vos doigts, parce que comment vous arrivez à sentir ces dysfonctionnements? Moi, tout ça me paraît très, très mystérieux. Hein.
Alors, une image très simple. Vous avez déjà fait votre lit?
Oui.
Vous mettez les draps, vous savez, sur le lit. Parfois, il vous arrive de mettre le drap sur le coin du lit, mais vous ne le mettez pas très bien. Et quand vous allez à l'autre diagonale, vous enclenchez le coin et il y a l'autre coin à l'autre bout du lit, pouf, qui saute. Ça veut dire qu'il y a une tension qui a été créée quelque part et qui agit sur un autre lieu, une autre destination.
Ah, donc ça veut dire que vous sentez des tensions.
Exactement.
Et vous allez agir sur ces tensions.
Vous avez tout dit. Et le but du jeu, c'est de dégager toute la route pour que le corps puisse marcher par lui-même et qu'il retrouve toutes ses fonctions.
Magnifique. Et donc, ces tensions que vous apaisez, que vous supprimez, comment vous y arrivez du bout de vos doigts?
Encore une fois, je ne fais pas grand-chose. Je laisse faire le patient. C'est-à-dire que je trouve...
C'est un métier magnifique.
Mais c'est un métier magnifique puisque... Mais c'est très personnel aussi, j'estime que c'est 95-96%, c'est le patient qui fait tout. Il m'amène,
Vous amène son état, mais après il faut bien que vous agissiez matériellement, manuellement, sur ces fameuses tensions qui font dysfonctionner son corps.
Exactement.
Donc là, vous travaillez.
Je travaille, je cible. Je me pose et derrière, comme je le disais, je ne suis qu'un point d'appui où je laisse faire le corps. Donc, vous allez avoir des zones qui vont être en restriction de mobilité. On parle beaucoup de mobilité, hein, de toute façon. Et le but du jeu, c'est grâce à diverses techniques. Donc là, vous me parlez plutôt de techniques, on va dire, fonctionnelles, myofasciales, douces. Vous avez parfois des techniques où vous avez le système articulaire qui est très verrouillé. Le système musculo-squelettique empêche ce système articulaire de se mobiliser. Donc nous, on va plutôt avoir une approche clouc-clouc, comme vous l'entendez, sur le muscle pour relâcher une tension, pour que le système articulaire se mobilise beaucoup mieux.
C'est quand même assez imperceptible, a priori, hein, en premier ressenti, votre action.
Les études nous permettent aussi d'avoir une expérience. Si vous allez chez le plombier, je ne suis pas sûr que vous arriviez à faire tout ce qu'il fait dans un premier temps non plus. Donc, on a ce package, hein, ces 5 ans d'ostéopathie qui nous permettent d'avoir quand même de bons gros outils pour après utiliser les techniques que nous ciblons. Et encore, vous avez...
Ce ne sont pas des techniques neuves, hein. Ça fait quand même des... 1874.
C'est ça, on est sur la fin du 19e siècle.
Oui, c'est ça, 1874, c'est un Américain.
Exactement.
Qui a inventé. Oui, non,
vous vous êtes renseigné.
Oui, je me suis renseigné, vous savez, c'est travaillé et tout ça. C'est Andrew Taylor Steele qui a créé l'ostéopathie, qui était médecin, lui, pour le coup, américain, et qui a créé cette technique.
Exactement. Je crois qu'il a perdu ses enfants et il a trouvé des impasses, justement, à la médecine allopathique de l'époque. Vous avez Sutherland aussi, c'est un grand nom de l'ostéopathie. Je crois qu'il était américain, qu'il a repris aussi. Les travaux d'Andrew Taylor Steele, mais voilà, c'est les deux grands noms qui... C'est là où a commencé l'ostéopathie en Amérique, sur la fin du 19e siècle, exactement.
On l'a toujours pratiqué pareil, ou il y a une évolution, comme par exemple dans la médecine, on ne pratique plus aujourd'hui la médecine comme on l'a pratiqué fin du 19e?
Alors, j'étais pas là au 19e siècle.
Oui, mais peut-être que vous avez entendu parler l'école, on vous a parlé de l'histoire de l'ostéopathie, de ses évolutions.
Bien sûr, on a des grands cours sur l'histoire de l'ostéopathie. Je serais peut-être pas le meilleur pour vous en parler. Effectivement, ça a dû bien évoluer. Et encore une fois, vous avez toutes sortes de pratiques. Donc, je dis souvent aux patients, il faut que vous alliez là où ça vous fait du bien.
Quand vous dites qu'il y a toutes sortes de pratiques, ça veut dire que c'est pas unifié. Ça veut dire que la perception de l'ostéopathe et les soins qu'il va prodiguer ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre.
Exactement. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez plusieurs techniques qui peuvent arriver au même résultat. Donc, que ce soit l'ostéopathe qui travaille de manière douce ou l'ostéopathe qui travaille de manière un peu plus...
Il y a des brutaux ?
Oui, il y a des brutaux, mais comme dans tous les métiers, hein.
Et donc, on n'a pas forcément sur un premier échec, si échec il y a, si le résultat n'est pas au rendez-vous, il ne faut pas se décourager.
Bien sûr, mais c'est pareil pour tout, c'est pareil pour toutes les pratiques. Et si l'ostéopathe ne vous convient pas et que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, ben peut-être qu'un autre praticien va vous permettre de... que ce soit ce que vous disiez, l'acupuncture, le médecin chinois...
On ne peut pas non plus se permettre de faire le tour de tous ceux qui ont la prétention de soigner les maux de l'humanité. Il vaut quand même mieux aller à l'essentiel directement. Vous nous avez dit que vous gardiez les patients une heure.
Ouais.
Une heure, 60 minutes, c'est très long. C'est le temps de cette émission, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant une heure?
Aujourd'hui, l'heure pour moi, elle est nécessaire. Elle est nécessaire de par l'anamnèse, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut déjà au moins 10 minutes. Vous voyez, je vais pas... Bonjour, vous avez mal au dos, installez-vous. Oui, et puis, il faut que le patient, il se sente aussi en confiance. Ça,
donc
c'est pareil.
Vous écoutez.
C'est que de l'écoute. Par les mains, par les oreilles aussi, hein, puisqu'on pose des questions au début de la séance. Mais effectivement, c'est beaucoup d'écoute. Et puis, vous allez avoir tellement de motifs de consultation diverses que l'heure, elle est assez nécessaire. Et puis, vous venez peut-être avec quelque chose, mais derrière, eh ben, on va trouver autre chose. Donc, ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin.
Donc, c'est une investigation générale sur l'état du corps.
C'est une enquête. Une enquête pendant une heure.
Voilà, vous êtes...
Je suis enquêteur professionnel du corps, si vous voulez.
Voilà. Et avec les enfants, c'est plus compliqué. Ils expriment peut-être moins bien leur... ou pas.
Ah, c'est génial. Les enfants, c'est...
Vous parliez des bébés.
Les bébés, c'est génial.
Il ne vous dit rien, lui, la mayonnaise, là,
chaque,
on la fait pas.
Chaque bébé sorti du ventre de la maman devrait être dans les mains d'un ostéopathe.
Là, il n'y a pas d'anamnèse. Il ne va pas vous dire ce qu'il ressent.
Et non. Alors, vous avez les parents qui vont nous parler de l'accouchement, de la grossesse. Ça, c'est à prendre en compte aussi, plus. Mais... Le bébé, c'est assez particulier. Vous êtes face à... C'est une boule d'émotion. Il n'a aucune notion même de son corps. C'est assez particulier puisque vous n'avez pas tout le contexte de l'adulte qui peut venir avec peut-être son vécu, les a priori qu'il peut avoir.
Justement, le bébé, il est neuf, il n'a pas de vécu. Donc, qu'est-ce qu'il a?
Et donc, il n'a aucun a priori.
Oui, il a pas d'a priori, mais il a peut-être rien non plus. Pourquoi aurait-il un dysfonctionnement ?
Les motifs de consultation particuliers, ça va être j'amène mon bébé parce qu'il a beaucoup de régurgitation. Vous avez les fameuses plagiocéphalies, les crânes plats. Donc, il va y avoir aussi un travail assez incroyable à faire sur toute la structure du crâne. Vous allez avoir les coliques du nourrisson qui sont assez physiologiques sur le premier mois. Mais le travail de l'ostéopathie va permettre de les soulager. Et puis le développement aussi du squelette, les différentes phases avec les positions assises, le port de tête, tout ce qui est fonction neuro et psychomote. Voilà, on peut avoir un œil dessus, un regard dessus et permettre à ces petits patients de mieux se développer avec plus de confort et peut-être moins de douleur.
Qu'est-ce que vous ne soignez pas ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas soigner en ostéopathie ?
Super question. Qu'est-ce qu'on ne peut pas soigner en ostéopathie ? Le cancer.
Oui, ce qui est déjà énorme.
Plein de choses. Il y a des limites dans tous les métiers. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la personne qui va se fracturer un membre, s'il vient me voir en me disant « je suis tombé il y a une heure, je me suis fracturé le tibia et je vois qu'il y a un os qui sort de là », enfin, je vais peut-être le réorienter. Donc les choses qui sont dans l'urgence vitale, on va pas chez l'ostéopathe. Voilà. La fièvre est une contre-indication aussi. Voilà, moi, je demande souvent, quand je vois une personne qui mouche un petit peu, est-ce que vous avez de la fièvre ? Est-ce que vous êtes en capacité aussi de venir faire la séance, puisqu'on ne fait pas rien, on mobilise. Il y a des suites après la séance, souvent, les personnes sont fatiguées. Pendant plusieurs jours, il peut y avoir des petites courbatures parce que le corps travaille. On envoie des informations, le patient les reçoit, il les traite et il y répond. Donc, quand votre corps est déjà en train de travailler, je reprends l'exemple de la fièvre, je vais dire, on va peut-être attendre que la fièvre tombe, c'est peut-être pas de mon domaine. Et puis vous allez voir votre médecin généraliste et puis on fait un petit tour, on revient après pour voir ce qui s'est passé.
Ça veut dire qu'on ne peut pas vous voir de façon récurrente. Est-ce qu'il y a des pathologies que vous soignez en plusieurs consultations, étalées dans le temps, ou est-ce qu'une seule consultation suffit ?
Vous avez de tout. Vous avez de tout. Sur un patient lambda qui a fait une chute, le sportif qui s'est verrouillé une dorsale, clouc clouc, clac clac, merci, j'ai plus rien. Le patient repart, il repart courir, il est en pleine forme, il a plus besoin de nos services. Vous avez d'autres patients qui viennent avec des douleurs qui sont installées depuis 10 ans, qui sont dans des échecs thérapeutiques, qui n'ont plus d'autres solutions et qui viennent vous voir. Là, c'est des séances qui vont être peut-être plus espacé, mais sur une durée de temps qui va être un petit peu plus longue. En revanche, on va toujours s'intéresser à savoir si on a de l'impact, si le motif de consultation il évolue, si on permet, si on avance.
Comment se passent les relations avec les autres professionnels ? Vous avez dit, je travaille avec des masseurs, des kinés, vous avez bien délimité le champ d'expertise de chacun. Le corps médical, le médecin lui-même, vous parliez de votre père qui est médecin, les médecins ont toujours une certaine réticence pour ceux qui ne passent pas par leurs mains.
Alors de plus en plus, vous avez quand même une ouverture de ce côté-là, effectivement.
Chez les jeunes,
peut-être plus chez les jeunes médecins, et encore que j'ai des médecins on va dire plus âgés qui viennent aussi en consultation, ça commence à s'ouvrir.
Alors si le médecin vient,
le monde va mal.
Le monde va mal. Le médecin lui-même va consulter l'ostéopathe, mais en catimini.
Bien sûr. Pas forcément. Je suis pas sûr. Je pense que ça commence un petit peu. Non. Ça commence à s'ouvrir. Et puis. Le pluridisciplinaire, il est ultra important. Si même l'ostéopathe peut soulager aussi un petit peu le médecin généraliste, ne serait-ce que pour des douleurs musculo-squelettiques, dégageons un petit peu le travail du médecin généraliste. Mais le pluridisciplinaire, pour moi, il est primordial. On ne peut pas être seul, à mon avis, à travailler dans son coin et à se dire « j'ai tout réussi, je suis la seule personne qui peut réussir à sauver mes patients ». Non, là, il faut revenir un petit peu à de l'ego. Et il faut s'aider de toutes les palettes pour pouvoir bien entourer le patient. Et qui plus est, le patient, quand il est bien entouré, il est très content parce qu'il voit qu'il avance.
L'organisation de la profession dans les autres pays européens est semblable à la nôtre?
Très bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai
D'accord.
pas la réponse du tout. Je suis cantonné
Il n'y a pas,
à
c'est
la
pas un
France.
diplôme européen. Est-ce que vous pouvez aller vous installer, que vous partez à
Ah.
Amsterdam? Est-ce que vous allez vous installer comme ostéopathe?
J'ai des amis qui se sont installés au Canada, qui se sont installés en Amérique du Sud. Il y en a aussi en Allemagne. Je pense qu'il y en a beaucoup moins dans les autres pays européens parce qu'il y a peut-être eu aussi un engouement en France avec beaucoup d'écoles. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit interdit de s'installer où l'on veut. Donc, non, non, vous
Non,
avez
il n'y
des
a pas de,
ostéopathes.
pas de
Hein. Non,
restriction.
il n'y a pas de restriction sur ce plan-là.
Ça coûte cher d'aller voir l'ostéopathe.
Vous avez tous les tarifs, donc effectivement, c'est pas donné. Et puis,
C'est en fonction de la pathologie, du temps que l'on y passe, ou alors
pas
c'est
du tout. C'est le
uniforme.
praticien qui fixe,
Librement les honoraires
voilà, qui fixe son tarif,
qui sont remboursés.
qui sont non remboursés par le système de sécurité sociale, mais vous avez le système des mutuelles complémentaires. Donc vous avez aujourd'hui aussi beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus, avec 80% maintenant des mutuelles qui remboursent une partie des soins. Donc vous avez des mutuelles qui vont rembourser 30, 50 euros par consultation, et ce, 3 à 4 fois par an. Donc ça avance aussi de ce côté-là. Ce qui est bien, ça permet un accès aux soins qui est un petit peu plus important.
Vous avez dit, ce n'est pas donné tout à l'heure.
Non,
C'est
c'est pas
pas
donné.
donné, mais est-ce qu'on peut donner
Bien
justement un prix?
sûr, vous avez des praticiens qui sont à 50 euros, vous avez des praticiens qui sont à 70 euros, moi je suis à 70 euros, et vous avez des praticiens qui sont à 90 euros, 110 euros, 120 euros. Voilà, vous allez à Paris, vous serez plus, à mon avis, dans les 90, 100 euros.
Ah ben à Paris, c'est toujours plus
C'est
cher,
toujours
hein.
plus cher, donc c'est aussi en fonction.
Est-ce que le
De la
prix
ville.
est un gage de qualité?
Non, je crois pas.
Mais comme on le disait dans les tontons flingueurs, le prix s'oublie, mais la qualité reste.
Exactement.
On fait une deuxième pause musicale. On va écouter quelqu'un que j'aime bien. Enfin, on va pas l'écouter à lui. On va écouter sa musique. On va écouter ses paroles. C'est un grand artiste. Il s'appelle Serge Rezvani. Il a peint, il a écrit, mais aussi il a beaucoup donné dans la musique. Ça s'appelle La Dame d'en face. Et au cas particulier, elle s'est interprétée par Philippe Catherine.
Les dimanches matins, en prenant mon bain, je me regarde dans la glace. Dire qu'on dit que c'est fugace, la jeunesse on dit que ça passe. Pourtant je ne vois pas de trace du temps présent qui trépasse irrémédiablement. J'ai beau me faire des grimaces, je me trouve encore bien. Inutile que je me tracasse jusqu'à dimanche prochain. Tous les dimanches matins, frais sortis du bain, je m'installe sur ma terrasse, en face de la dame d'en face, qui s'installe sur sa terrasse. On attend que dimanche passe, espérant être plus loquace le dimanche prochain. Et je rêve que j'embrasse son petit chat, son petit chien. Mais voilà que dimanche passe sans qu'il se passe rien. Mais un dimanche matin, en sortant de mon bain, je me surprends face à face dans les reflets de la glace. Je me dis, mon vieux, tu tasses, t'as qu'à voir la dame d'en face. Depuis le temps qu'elle se prélasse, elle est de moins en moins bien. Songe aux courbes de ses hanches, c'est la courbe du destin. De dimanche en dimanche, elle a pris de l'embonpoint. Le temps a passé, et bien trépassé. La vie n'est qu'un long dimanche dont on parle vite au passé. Plus elle penche la balance, moins il nous reste à tirer. À chacun sa ligne de hanche, c'est la destinée. Le temps a passé, et bien trépassé. Si j'avais eu plus de temps, la dame d'en face sur sa terrasse, j'aurais fait un enfant. Qui sait deux enfants? Qui sait trois enfants? Quatre enfants? Cinq enfants? Six enfants? Sept enfants? Huit enfants? Neuf enfants? 10 enfants?
La dame d'en face de Serge Rezvani. Et nous retrouvons Thomas Ordonneau, notre ostéopathe, qui vient de nous expliquer un peu quel était l'essence de son métier, comment ça fonctionnait, en quoi cela consistait. Alors, quand vous ne faites pas l'ostéopathe, qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que je fais quand... L'ostéopathie
Hein?
me prend beaucoup de temps.
Ouais. Surtout quand on est jeune.
Surtout quand on est jeune,
ouais, il faut
travailler. La plupart du temps, c'est du repos, c'est du temps avec ma famille.
Du sport un peu, peut-être ?
Du sport pour s'entretenir, pour avoir moins de douleurs aussi. Donc, footing, gainage, petite activité musculaire. Je ne suis pas un très, très grand sportif. Le reste du temps, c'est de la cuisine, du partage. Et puis, s'échapper en pleine nature le plus possible aussi, des moments de ressources.
Voilà, donc vous refaites la coquille, comme disent mes amis catalans.
Exactement.
Alors, pour mieux vous connaître, on va parler un peu de vos goûts. Tiens, une œuvre d'art qui vous a particulièrement marqué, quelle qu'elle soit d'ailleurs.
Actuellement, l'artiste peintre L'Atlas. L'Atlas qui travaille à Paris, il est encore en vie.
C'est son nom ?
C'est son nom d'artiste.
D'artiste, oui.
Je crois qu'il s'appelle Jules. Il travaille avec des rubans de masquage. Il a travaillé beaucoup en graffiti au début, et puis maintenant il fait de la toile. Il travaille aussi sur des monuments, donc voilà, on peut apercevoir ses chefs-d'œuvre labyrinthiques un petit peu partout dans le monde. Et voilà, en ce moment, je le regarde beaucoup. Une autre artiste, cette fois-ci toulousaine, qui s'appelle Marie-Louise Dessage. Alors, pas du tout le même style. Avec l'Atlas, on est sur des choses très géométriques, très graphiques. Marie-Louise Dessage, ça va être... on est plutôt sur du street art, de l'urbain. Voilà. Il y a aussi pas mal de présence humaine, mais qui là va être avec la présence de végétaux. On est plus sûr de la poésie, pour moi. J'utilise mes mots, hein, je ne suis pas très bon là-dessus, mais voilà, c'est les deux artistes que je suis en ce moment et qui me plaisent beaucoup.
Dans cette vie encore jeune, hein, bien que fortement entamée, mais vous en avez sous le pied, comme l'on dit. Quel est le moment qui vous a le plus marqué ? Je crois que c'est votre inscription à l'Institut, l'ITO.
Sur le côté pro, oui, j'étais pas du tout voué à une carrière d'ostéopathe. Donc,
mais vous ne le regrettez pas, vous êtes heureux de ce que...
Ah, c'est la,
vous avez trouvé votre...
C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. D'avoir raté médecine, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée.
Écoutez.
Donc, ravi. Et puis voilà, j'ai découvert ça vraiment... par hasard. Donc, c'est le jour qui m'a un peu marqué au niveau pro.
A posteriori, puisque vous ne saviez pas au départ où vous alliez.
Mais pas du tout, j'étais même anti-ostéopathe.
Donc, c'est bien, vous avez trouvé votre voie, c'est rare et c'est fabuleux.
On s'ouvre un peu plus, exactement.
Qui c'est qui vous a inspiré, qui a été un modèle pour vous dans votre parcours ? Ça pourra évoluer, ça pourra changer, on l'a dit, mais à ce jour...
Mes professeurs. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs qui connaissaient le métier depuis peut-être 40, 50 ans, qui sont toujours en activité aujourd'hui. Donc ça a été les premiers moments où on se dit « Ouf, je suis à ma place ». Et puis là, il y a quelque chose à creuser qui m'intéresse. Donc un grand merci à eux, hein, je pense... à Monsieur Schmitt, Bernard Schmitt, qui travaille aussi à Toulouse. Et puis ceux qui m'ont aussi donné la chance de commencer à travailler dans leur cabinet. Voilà, le premier jour où j'ai commencé mon activité, voilà, j'ai travaillé avec Jean-Rémy Mangin et Laura Simonet qui m'ont donné leur confiance. Laura, elle travaille beaucoup avec les bébés, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir des bébés tout de suite après mes études. Donc je les remercie. Voilà, souvent je dis que Laura est un petit peu mon maître puisque j'ai aussi appris de leur technique et leur façon de travailler. Donc voilà, je pense à eux tout de suite.
Bien écoutez, saluons-les puisque ce sont eux qui vous ont mis, si vous me permettez l'expression, sur orbite.
Exactement.
On finit en parlant de livres. Thomas, vous lisez Thomas Ordonneau ?
Je lis peu. C'est bien dommage. Hein, les écrans. M'ont aussi un petit peu, même si c'est pas la meilleure des choses. Les derniers livres que j'ai lus, c'était La Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Livre un peu compliqué, mais assez intéressant, porté sur, on va dire, l'ouverture de la conscience, travailler le moment présent, et puis faire partir l'ego le plus possible.
Mais ça, c'est quand même la j'allais dire, c'est la maladie du siècle, si tu es, c'est idiot. C'est depuis que l'homme est sur Terre, on pense qu'il se bat avec son ego.
Exactement. Donc, livre très intéressant, un peu compliqué à lire, dans le même style. Vous avez, je me rappelle.
Kilomètre zéro,
exactement,
peut-être.
Exactement. Beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus romancé.
De Mukwege.
Oui, vous le dites mieux que moi.
Oui, je me suis entraîné.
mais très sympa aussi à lire. Et dernièrement, plutôt un livre sur l'astronomie. Et là, c'est assez intéressant parce que je redécouvre tout ce que j'ai appris au lycée qui ne m'intéressait pas, où je mets des mots sur les définitions que j'apprenais par cœur sans comprendre. Voilà, je comprends un petit peu plus les choses. Et puis, il y a toujours cette sensation d'immensité et de recul. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur l'ego et la place que nous avons. Donc assez intéressant.
C'est le problème, aussi. Le lycée, il faudrait le faire déjà quand on est beaucoup plus âgé pour pouvoir profiter de tout.
Oui, on
laisse beaucoup de choses de côté. Quand
sur
même.
Des gros sujets, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps pour parler de l'éducation nationale, mais il y a des choses à dire, effectivement.
Oui, je pense qu'on pourrait y consacrer plusieurs émissions. Mais d'ailleurs, on va refaire bientôt une émission sur les mathématiques avec notre Super. Professeur de mathématiques qui était venu, qui nous avait fait une émission époustouflante l'an dernier. Donc, je l'ai réinvité. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais c'est toujours une grande surprise parce que c'est un homme extrêmement brillant.
Je l'écouterai avec grand plaisir.
Et qui, lui, a parfaitement dominé son ego. Voilà, moi, je vais vous parler de notre livre. Ça s'appelle L'Effacement. C'est aux éditions Passiflore et ça a été écrit, je crois que c'est une dame qui est bordelaise, Pascal de Wambranchi. C'est pas simple à dire. Ça s'appelle donc L'Effacement. Et cet effacement, ben, c'est celui de Gilda, 36 ans, qui mène une existence tranquille d'institutrice de village. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de passion. On est à Saint-Mont-des-Pyrénées. Ça se passe en 1952 et voilà, une vie très plan-plan, dirait-on aujourd'hui. Et puis arrive un jeune de 20 ans, Louis, qui va bouleverser sa vie, on va tomber amoureux, on va avoir une véritable passion très partagée et donc délicate parce qu'on est en 1952. En 1952, la majorité, rappelons-le, était à 21 ans et donc c'était un mineur. Donc je vous laisse imaginer dans un village de campagne tout ce que ça peut entraîner, puis ça avait des conséquences pénales. On se souvient peut-être d'une dame qui s'appelait Madame Russier, Emmanuel Russier, qui était tombée amoureuse d'un de ses élèves et qui, ça avait été très très mal fini. Les parents s'en étaient mêlés. Monsieur et Madame Macron n'étaient pas encore passés par là pour banaliser la chose. Alors, pour revenir à Gilda Morel et à l'effacement, eh bien, c'est l'histoire du journal qu'elle va tenir, puisqu'elle va tomber enceinte. Et puis, il y a des guerres aussi. Voilà, donc c'est un livre qui est admirablement bien écrit, une très belle langue, beaucoup de finesse, beaucoup de pudeur. C'est vrai, c'était pas un gros livre, mais elle va nous expliquer comment elle va pouvoir affronter les regards, reprendre le cours de sa destinée, essayer de faire face et surtout survivre et survivre après avec un bébé. Je vous le recommande chaleureusement. C'est de la belle littérature et c'est vraiment un très beau moment, un très très grand plaisir de lecture. L'effacement de Pascal de Wambranchi aux éditions Passiflore. Voilà Thomas Ordono, notre DO, diplômé d'ostéopathie, qui est, vous l'avez rappelé, le label qu'il faut viser. Exactement. Lorsqu'on va voir un de vos confrères. Thomas Ordono, donc, qui est ostéopathe à Toulouse et rue Pharaon, on l'a dit, on le rappelle. Merci d'avoir bousculé un peu votre emploi du temps, vos patients, pour venir passer une heure avec nous et nous expliquer votre métier.
Merci à vous pour l'invitation et puis une très belle année à tous les auditeurs d'Esprit Occitanie.
Eh bien, on va essayer aussi de les distraire et puis peut-être de leur ouvrir quelques pistes de réflexion pendant toute cette année. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Et puis aujourd'hui, j'avais aussi mon technicien de luxe, notre président Jean-Luc Palévaudy, qui est exceptionnellement remplacé puisque nous sommes quand même toujours en période de vacances. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.